En effet, c'est une divine parole, une parole qui nous a été laissée par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Dieu, à travers tous les temps. Et je vous invite à lire dans le prophète Joël, donc l'un des 12 petits prophètes, le prophète Joël, et nous lirons ensemble le premier chapitre. Livre Joël, au chapitre 1. La parole du Seigneur fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Écoutez ceci, anciens. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazem, la sauterelle, l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec, l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hasil, l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, il a les mouchoirs d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne en blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revit d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison du Seigneur. Les sacrificateurs serviteurs du Seigneur sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est taré, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent. À cause du froment, de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison du Seigneur, votre Dieu, et criez vers le Seigneur. Ah, quel jour! Car le jour du Seigneur est proche, il vient comme un ravage de tout-puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie, l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences sont séchées sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage, et même le troupeau des brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Seigneur, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Jusqu'ici, notre lecture. Je mets la parole de Dieu à côté, mais pas trop loin. Ces dernières années, notre société a connu, a été, notre monde a été le théâtre de plusieurs catastrophes naturelles. On se souvient encore du tremblement de terre en Haïti, du séisme qui a frappé le Japon, et depuis quelques mois, d'une grande sécheresse qui frappe toute la corne de l'Afrique et qui touche d'une manière toute particulière la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya. Et plonge toute cette région-là dans une crise nutritionnelle dramatique. Au cours de ces 4 dimanches qui suivent, nous allons ensemble méditer sur le livre du prophète Joël. Le prophète Joël qui annonce une catastrophe naturelle, c'était la sécheresse, qui qui sera suivi très rapidement par une invasion de sauterelles qui sera justement ramenée par cette chaleur. Le prophète Joël ne fait pas seulement que décrire la catastrophe naturelle à laquelle Juda, le pays de Juda, fait face, mais il donne un sens à cet événement. Il donne une lecture théologique à cet événement et il invite ses contemporains à adopter une attitude adéquate, c'est-à-dire la repentance et le retour vers le Seigneur. Le Dieu qui dirige l'histoire de Juda est le même qui continue à diriger aussi notre histoire, l'histoire de notre humanité. Il est important de comprendre les événements qui surviennent dans notre monde, de bien les interpréter aussi, et à la lumière, bien entendu, de toute la révélation que le Seigneur nous a laissée, de la révélation biblique que le Seigneur nous a laissée, et de tirer toutes les conclusions qui s'imposent pour notre vie de croyant. Voilà, me semble-t-il, en quoi le livre de Joël peut encore nous parler aujourd'hui, nous donner des éléments permettant une bonne lecture des événements de notre monde. Nous avons d'entrer dans ce premier chapitre que nous venons de lire ensemble. Je vous propose juste quelques repères historiques sur le prophète Joël. À vrai dire, nous ne savons pas grand-chose sur le prophète Joël, sinon que son nom veut dire Joël, le Seigneur et Dieu. Nous savons aussi qu'il est, le premier verset de ce livre le dit, qu'il est le fils de Pethuel et qu'il avait exercé son ministère dans le pays de Juda. Vous savez, après le schisme, donc Israël, il y avait une division. Au sud, il y a Juda, en gros, et au nord, il y a Israël qui regroupe les 10 tribus. Et donc, Joël a exercé son ministère à Juda, et souvent dans le livre, il est question de Jérusalem, de Sion, qui se retrouvent tous donc dans le pays de Juda. Et même lorsque le terme Israël est employé, c'était pour désigner la communauté de Juda. Donc, ça, nous le savons. Il y a une grande discussion sur la date quand le prophète Joël a exercé son ministère en Juda. Certains pensent que Joël a exercé avant l'exil, c'est-à-dire avant 721 pour le royaume du Nord et 587 pour le royaume du Sud. Donc certains disent avant l'exil et d'autres pensent au contraire, c'est après l'exil. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est l'occasion et j'aimerais, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je voudrais vous renvoyer au commentaire de Sylvain Romerovski dans la série des commentaires évangéliques de la Bible qui sont édités par la faculté de Vaux-sur-Seine. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir et vous orienter vers la bonne personne qui vous vendra ces commentaires. C'est un très bon commentaire sur le livre donc de Joël. Je profite de l'occasion de vous le recommander d'emblée. Mais pour ma part, je suis un petit peu ce que M. Romerovski avait soutenu dans son commentaire. Il me semble que Joël a exercé son ministère avant l'exil, donc vers même la dernière partie du 9e siècle avant Jésus-Christ. Et de cette manière, il me semble que Joël pourrait être le contemporain d'un autre prophète qui a exercé son ministère prophétique dans le royaume du Nord, c'est-à-dire Élisée, qui est à ce moment-là aussi, en cette période-là, a exercé son ministère de prophète dans le royaume du Nord. Ceci dit, même si nous ne pouvons pas saisir, nous ne pouvons pas savoir avec certitude l'époque à laquelle le prophète Joël a exercé son ministère, il convient, me semble-t-il, cela n'enlève en rien à son message, et il convient de rester attentif à son message, de rester sensible à ce qu'il a à nous apprendre. C'est un message qui garde toute sa pertinence pour nous aujourd'hui et pour, entre autres, nous permettre de bien rester vigilants face au déroulement de notre histoire. Entrons maintenant dans le texte de Joël. J'aimerais relever deux points dans ce chapitre, qui sont développés dans ce chapitre, deux points importants, me semble-t-il. Le premier, c'est la description de la situation désastreuse dans laquelle se trouve le pays de Juda. Et le deuxième, c'est l'attitude à laquelle le prophète Joël invite ses contemporains. Pour décrire la situation dans laquelle le pays est plongé, le prophète peint deux tableaux. Le premier, dans les versets 2 à 12, où il montre que tous les habitants de Juda sont concernés par la situation. Personne n'a été épargné. Et le deuxième tableau, c'est dans les versets 16 à 18, où il montre quand même les animaux et le sol, la terre, souffrent aussi et touchés aussi par cette situation. Dans les 12 premiers versets, Joël interpelle le peuple en décrivant la catastrophe qui frappe le pays. Il y a une grande sécheresse, et une grande sécheresse donc avec des grandes chaleurs qui ont conduit une invasion de sauterelles. Et dans ces 12 premiers versets, c'est organisé d'une manière vraiment remarquable. Il y a 4 strophes dans ces douze versets. Et chacune de ces strophes commence par un impératif, une interpellation directe que le prophète lance. La première strophe s'adresse à tout le peuple dans sa totalité, et le prophète leur dit « Écoutez ceci, vous les anciens, prêtez l'oreille, vous tous les habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé dans votre temps ou dans le temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazem, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré, ce qu'a laissé le gélec, le chazil l'a dévoré. » Les versets 2 et 3 informent qu'un événement extraordinaire vient de se produire dans le pays de Juda. Un événement qui ne ressemble à aucun autre événement de tous les événements qui se sont produits dans l'histoire du peuple d'Israël. Un événement tellement important que les habitants de Juda doivent le raconter à leurs enfants en demandant à leur tour de le raconter aux générations qui suivent. Jusqu'alors, c'est l'exode, la délivrance du pays d'Égypte qui doit être racontée aux enfants des enfants, à leurs enfants et leurs enfants à leurs enfants. C'est l'exode, ce qui rappelle la délivrance extraordinaire que le Seigneur a accordée à son peuple. Désormais, un événement nouveau doit être aussi raconté aux enfants d'Israël. Au verset 4, le prophète commence à décrire cet événement. Le pays est dévoré par un envahisseur particulier, un envahisseur décrit avec 4 termes différents, le gazim, le harbit, le yelek et le chazid. Joël se sert de 4 termes, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, en tous les cas, tous les 4, on ne sait pas, et certains, on sait que, par exemple, pour le deuxième terme, il s'agit bien des sauterelles, mais tous ces termes veulent renvoyer aux sauterelles, c'est une forme de synonyme. Peut-être à des stades différents, certains termes veulent dire des sauterelles quand elles étaient tout petites, les chenilles, etc. Mais ça renvoie d'une manière générale aux sauterelles. Et donc il y a des sauterelles qui viennent envahir le pays et qui dévorent toutes les récoltes. Si Joël a employé aussi les 4 termes d'une manière presque des synonymes, c'est aussi, il y a le chiffre 4, la symbolique du chiffre 4 qui est derrière. Le chiffre 4 qui symbolise dans la Bible la totalité. C'est une manière de dire rien n'échappe à l'invasion de ces sauterelles. Tous subiront les conséquences de leur passage. Les habitants humains comme les animaux de Juda seront touchés par cette catastrophe. Le fléau des sauterelles a déjà frappé un peuple dans l'Ancien Testament. Mais c'est un peuple qui s'est érigé contre Dieu par ses dirigeants. C'est l'Égypte. Rappelons-nous que la huitième plaie contre l'Égypte, parce que le Pharaon refusait de laisser partir le peuple d'Israël sous la houlette de Moïse pour servir son Dieu, la huitième plaie n'est autre que une invasion de sauterelles. Et voici comment cette invasion est décrite dans Exode 10. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent dans tout le territoire de l'Égypte. C'était si grave qu'auparavant il n'y avait jamais eu tant de sauterelles et qu'il n'y en aura jamais plus autant par la suite. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut obscurcie. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce qui était resté après la grêle, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays de l'Égypte. C'est Exode 10, les versets 14 et 15. La plaie de sauterelles envoyée en jugement contre l'Égypte autrefois vient s'abattre maintenant contre Juda, contre le peuple de Dieu. Si autrefois ce sont les champs et les arbres d'Égypte qui étaient dévorés, maintenant ce sont les champs et les arbres de Juda qui sont dévorés. Aussi bien pour l'Égypte que pour Israël, le verbe dévorer revient à trois reprises, aussi bien dans Exode 10 que dans Joël 1 que nous venons de lire, ce qui montre une volonté très claire de faire un parallèle entre ces deux jugements infligés par Dieu, aussi bien aux Égyptiens qu'aux Israélites. Les conséquences de l'invasion des sauterelles sont dramatiques sur le pays de Juda. Dans les versets 5 à 12, composés sous forme de trois strophes, comme je le disais tout à l'heure, le prophète Joël explicite les ravages causés par l'invasion de sauterelles. Au verset 5 à 7, ce sont les deux symboles, la paix et la prospérité, qui sont tombés. La vigne et le figuier sont dévastés par les sauterelles. Si la vigne et le figuier sont abattus, inutile de penser aux autres plantes moins solides, à l'herbe des champs. Les dégâts sont très importants. Le prophète décrit l'œuvre des sauterelles à l'aide d'une image terrifiante. C'est comme si la vigne et le figuier sont broyés par les dents d'un lion dans la mâchoire d'un lion. Tout est abattu. Rien n'a échappé aux sauterelles. Même les rameaux, c'est-à-dire l'édification des tiges, n'ont pas échappé au passage des sauterelles. Verset 12, il est question de figuier, de grenadier, de pommier, de tous les arbres des champs. Toute la moisson des champs est perdue. Aucune joie ne peut être tirée du travail qui a été accompli pour nourrir, pour tous ces champs, le travail qui a été déployé pour élever tous ces arbres, car aucune moisson n'est possible. Quelle situation de frustration et de désastre. Le domaine agricole n'est pas le seul à souffrir du passage des sauterelles. La vie cultuelle, la vie de culte aussi subit les conséquences de l'envahisseur. Offrandes et libations disparaissent de la maison du Seigneur, le verset 9. Plus de culte dans le temple, une manière de dire plus de rapport avec le Seigneur. Face à cette situation, trois entités sont dans le deuil. D'abord, la communauté représentée par la jeune, la Vierge, au verset 8. Le terme « vierge » se réfère ici à une jeune femme dans la période intermédiaire entre les fiançailles, qui constituait le mariage légal à l'époque, et les noces. Et pendant cette période-là, normalement, la jeune fille, doit porter les habits de fête. Or, ici, ce sont les habits de deuil qu'elle porte. Quelle situation! Elle montre bien la situation dans laquelle est plongée Juda, la communauté de Juda. Ensuite, ce sont les sacrificateurs qui sont dans le deuil, à cause de la cessation de culte. Car cesser de rendre un culte au Seigneur voudrait dire plus de relation avec Dieu, plus de service de Dieu. Et c'est très difficile pour ces sacrificateurs, pour ces docteurs de la loi, qui comprenaient bien les retombées théologiques d'une telle situation. Enfin, c'est la terre entière, c'est la terre qui déplore la perte de ses fruits. Les blés sont détruits, le vin est épuisé, l'huile est desséchée, la terre. Or, tous ces produits, tout particulièrement ces trois produits, sont promis, caractérisent la terre, les fruits de la terre promise dans Deutéronome 7. Dieu a promis que la terre qu'il accordera à son peuple, il y aura du blé, il y aura du vin, il y aura de l'huile. Or ici, justement, les trois produits ne seront plus. C'est une manière de dire, de signifier la suspension, au moins pour un temps, des promesses faites par Dieu dans le cadre de l'alliance à son peuple. Le peuple se retrouve dans une situation dramatique, aussi bien sur le plan économique que sur le plan religieux. Et le deuxième tableau, les versets 16 à 18, rend compte de cette dure réalité qui touche tous les domaines de la vie des Judéens. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes, Les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. La plaie des sauterelles fait subir au peuple de Dieu des conséquences dramatiques. Autrefois, c'est l'Égypte qui a subi ce jugement de la part de Dieu. Maintenant, c'est Juda, le peuple de Dieu, qui subit le même châtiment que les Égyptiens d'autrefois. Comment ? Comment comprendre cette invasion de sauterelles ? Comment se fait-il que Dieu traite son peuple comme il a traité les Égyptiens d'autrefois ? Comment comprendre ce jugement de Dieu ? À la sortie du pays d'Égypte, le Seigneur a conclu une alliance avec son peuple où il est dit très clairement que le peuple serait béni tant qu'il reste dans le cadre de l'alliance, tant qu'il respectait les clauses, les ordonnances de l'alliance. Et par contre, si le peuple devenait infidèle à l'alliance, il subira les sanctions prévues par l'alliance. Justement, voici l'une des sanctions prévues en cas d'infidélité à l'alliance. Vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs, mais vous ferez de maigres récoltes, car les sauterelles auront tout dévasté. Vous planterez des vignes et vous y travaillerez, mais vous n'en boirez pas le vin, et vous n'aurez rien à y récolter, car les chenilles auront tout dévoré. Vous posséderez des oliviers sur tout votre territoire, mais vous n'en récolterez même pas assez d'huile pour enduire votre corps, car vos olives seront tombées avant d'être mûres. Vous donnerez naissance à des fils et à des filles, mais vous ne les garderez pas avec vous, car ils s'en iront en captivité. Les criquets dévasteront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres. Deutéronome 28, les versets 38 à 42. Le peuple était prévenu. Le peuple était prévenu par Moïse. Si le peuple se retrouve dans cette situation, ce n'est pas Dieu qui a failli à sa responsabilité de protéger son peuple et de lui apporter, de pourvoir à ses besoins. Mais c'est le peuple qui s'est mis dans l'infidélité, qui s'est mis sous le jugement de Dieu. En d'autres termes, le peuple récolte le fruit de sa désobéissance, de son éloignement de Dieu, de son détournement de celui à qui il doit tout. L'apôtre Paul dira par la suite aux chrétiens de Galates, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette situation pour nous ? J'aimerais vous suggérer deux, une sur le plan collectif et l'autre sur le plan individuel. D'abord sur le plan collectif. Il arrive souvent d'entendre autour de nous des gens accuser Dieu à cause de tous les maux, M-A-U-X, hein, à cause de tous les maux qui se développent dans notre monde. Les catastrophes naturelles, mais aussi des guerres, des maladies, des tragédies qui emportent des vies innocentes, etc. Mais il ne faut pas, me semble-t-il, renverser les rôles. S'il y a quelqu'un à blâmer, s'il y a quelqu'un à condamner, c'est bien l'être humain pour ses actes souvent nourris d'animosité, de méchanceté et d'égoïsme. L'être humain est pleinement responsable des actes qu'il pose, aussi bien vis-à-vis des autres que vis-à-vis de Dieu. Les catastrophes naturelles auxquelles nous avons assisté ces dernières années sont expliquées en long et en large par les spécialistes comme le fruit de la mauvaise gestion humaine, la mauvaise gestion de la planète par l'être humain. Donc avant d'accuser Dieu lors de ces catastrophes qui frappent notre monde, il faut peut-être réfléchir d'abord à toutes ces exploitations irresponsables de la création et pourtant belle que Dieu nous a laissé, que Dieu a placé entre nos mains. Ensuite, il me semble qu'il faut dire aussi que rien ne peut échapper au contrôle du Seigneur notre Dieu, y compris ces catastrophes naturelles. Dans la Bible, ces catastrophes sont présentées souvent comme des jugements de Dieu, comme nous venons de le voir aussi bien pour le peuple des Égyptiens, ennemis de Dieu, un peuple ennemi du peuple de Dieu, et que pour les Judéens qui sont le peuple de Dieu. Mais il me semble que ce n'est pas juste de considérer toute catastrophe naturelle comme jugement de Dieu, venant de Dieu. Il me semble, souvent, ces catastrophes sont le fruit de notre mauvaise gestion, comme je viens de le dire, la mauvaise gestion humaine que du jugement de Dieu. Mais il ne faut pas non plus exclure, me semble-t-il, parfois, des jugements que Dieu envoie, y compris à notre temps, à notre monde. Une deuxième application, c'est sur le plan personnel et individuel. Lorsqu'une épreuve s'invite dans notre vie, nous pensons souvent que soit c'est une tentation qui vient de l'ennemi pour nous faire tomber encore dans le péché et nous éloigner de Dieu, soit c'est une épreuve qui vient de Dieu pour nous approcher de lui et nous rendre encore meilleurs. Tout cela est vrai et peut-être vrai. Mais j'aimerais nous suggérer encore une troisième possibilité. Parfois, ce qui nous arrive n'est que le fruit de nos actes. Prenons l'exemple du mensonge. Il ne faut pas nous étonner de voir s'écrouler nos entreprises individuelles fondées sur le mensonge, par exemple. C'est normal, le fondement n'est pas solide. C'est comme bâtir une maison sur le sable. Elle finira tôt ou tard de s'effondrer parce que les fondements, justement, ne sont pas solides. C'est ce que Jésus enseignera dans Matthieu 7. Il ne faut pas nous étonner. Il ne faut pas nous étonner des tempêtes que nous rencontrons si nous passons notre temps à semer le vent. Celui qui sème le vent récolte la tempête, disait déjà le prophète Osée à son peuple, Osée 8 au verset 7. Et nous pouvons appliquer ce principe, il me semble, à tous nos projets qui ne sont pas fondés sur des principes clairement enseignés dans les Écritures. Donc parfois, les situations difficiles dans lesquelles nous nous retrouvons ne sont que le fruit de nos mauvais choix, de nos mauvais actes. Quoique nous avons pris conscience de cette responsabilité-là qui est la nôtre, j'aimerais ne pas nous laisser face aux conséquences ou face aux conséquences de tous ces actes dont nous ne sommes pas vraiment fiers ou même pour lesquels nous avons souvent honte. J'aimerais nous rappeler que le Seigneur est là aussi pour apaiser nos tempêtes. Les tempêtes de notre vie, lorsque nous avons semé le vent, il y a les tempêtes, on récolte les tempêtes, et là, le Seigneur, lorsque l'on se tourne vers le Seigneur aussi intervient et apaise ces tempêtes. Si je peux faire ce parallèle avec la tempête apaisée par le Seigneur. Si nous nous trouvons dans des situations de tempête, n'hésitons pas à nous tourner vers le Seigneur pour lui demander de les apaiser, pour lui demander de nous montrer le moyen qu'il a prévu pour nous faire sortir victorieux, un moyen par lequel aussi nous pourrions lui rendre gloire et l'honorer. Espérons, voire prions, pour que nous en sortions avec un sens de responsabilité plus développé. Après son constat, le prophète Joël appelle maintenant le peuple à se tourner vers le Seigneur, à se préparer pour l'appel de la repentance qu'il lancera au chapitre 2. Ils nous reviendront dimanche prochain. Face à cette catastrophe naturelle, lui est comprise comme un jugement de Dieu, Joël appelle d'abord les responsables religieux à se tourner vers le Seigneur. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs du Seigneur, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sac, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Verset 13. Les sacrificateurs sont appelés à se lamenter en se frappant la poitrine. Et c'est une manière, se revêtir des sacs de deuil. Pour exprimer leur désolation, pour dire leur regret et pour se mettre enfin à l'écoute de leur Dieu. Cette manière d'agir est employée souvent dans l'Ancien Testament pour exprimer son regret d'avoir agi d'une manière non conforme au commandement de Dieu. C'est le cas, par exemple, du roi Achab, lorsque le prophète Élie lui annonce le jugement de Dieu, le jugement de Dieu qui allait s'abattre sur lui et sur sa famille, un roi 21. Il est dit dans le livre des rois, donc au chapitre 21, au verset 27, « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements en signe d'humiliation et revêtait un habit de toile de sac à même la peau et refusa de manger la nuit et il dormait dans ce vêtement le jour et le jour il se traînait à pas lents. » Suite à cette humiliation, le Seigneur entend la prière d'Achab et puis il lui épargne le malheur qu'il avait envisagé d'envoyer sur sa vie contre lui et contre sa famille. C'est juste un délai que Dieu lui a accordé, parce que par la suite, c'est sous le règne de son fils que la catastrophe s'abattra sur sa famille. En se mettant en deuil comme Akab, les sacrificateurs se placent devant le Seigneur, se mettent à la recherche de leur Dieu, car en effet, malgré les apparences, il est dit que votre Dieu, le Seigneur, reste toujours leur Dieu. Il peut toujours intervenir et ils peuvent, les sacrificateurs, se tourner toujours vers lui. Les anciens sont appelés aussi à se joindre à cette cérémonie solennelle pour chercher la face du Seigneur, car ce sont eux qui étaient chargés de la gouvernance, de la gestion courante de la vie du peuple. Après les responsables, c'est l'ensemble du peuple qui doit se joindre à ce rassemblement devant le Seigneur. L'heure est grave, tous les habitants du pays doivent répondre à cette convocation en observant un jeûne pour crier ensemble au Seigneur. En effet, lorsque le peuple cherche le Seigneur se laisse trouver. Il répond aux appels au secours de son peuple. Nous pouvons penser ici au roi Josaphat, qui a convoqué tout le pays de Juda pour jeûner, pour consulter le Seigneur face à la menace d'une grande armée ennemie. C'est dans 2 Chroniques 20. Et le texte précise que tout Juda, femmes et enfants compris, se tenait debout devant le Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur a accordé une délivrance remarquable à son peuple. La situation est catastrophique, voilà pourquoi Joël convoque l'assemblée des Judéens pour chercher la face du Seigneur. Après avoir appelé les sacrificateurs, les anciens, le peuple, maintenant c'est Joël à son tour, lui-même qui se tourne vers le Seigneur, qui prie. « C'est vers toi que je prie, ô Seigneur », le verset 19. « Car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. » Joël, prophète de Dieu, se sent pleinement solidaire de son peuple. Il n'est pas là uniquement pour appeler les autres à rechercher le Seigneur, à se préparer à la repentance, mais aussi pour prier avec le peuple, pour chercher avec le peuple la face du Seigneur, car il se sentait pleinement responsable et solidaire de ce qui se vit et se fait en Juda. Notre prophète va encore plus loin. Il associe à sa prière les bêtes des champs, une manière de dire non seulement le peuple cherche la face du Seigneur, mais aussi les animaux qui subissent d'une manière directe les conséquences de la sécheresse et du fléau de la sauterelle, des sauterelles. En même temps, Joël ne se laisse pas abattre par la situation. Il est le prophète de Dieu, celui qui doit donner une explication théologique, biblique, si vous préférez, aux événements tragiques qui frappent le pays. C'est dans son rôle de rappeler les clauses de l'Alliance au peuple à chaque fois que celui-ci s'en écarte. Joël sait que le Seigneur interviendra. Il sait que le Seigneur est fidèle et bon. Il sait que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est avec un double sentiment, donc, que notre prophète formule sa prière. D'une part, un sentiment de confiance en Dieu, car celui-ci interviendra, agira, triomphera. Et d'autre part, un sentiment d'impuissance face à la situation désastreuse que le pays traverse. Que peut nous apporter, à nous, chrétiens de notre temps, cet appel de Joël à se tourner vers le Seigneur? Là aussi, j'aimerais vous proposer deux applications sur le plan individuel et sur le plan collectif. Individuellement, les situations difficiles que nous traversons, que nous pouvons rencontrer, doivent nous conduire à la prière, à la recherche du Seigneur, à l'humiliation devant Dieu et non pas à la désobéissance et encore à la rancune contre Dieu. Face à l'épreuve, en effet, face à la difficulté, il y a deux attitudes possibles. Soit chercher le Seigneur, chercher à comprendre dans un esprit d'écoute et d'obéissance au Seigneur, soit accuser Dieu de n'avoir pas fait le nécessaire pour qu'une telle épreuve ne soit épargnée. À nous de nous préparer pour que le jour de l'épreuve, de la difficulté, ne sera pas pour nous une occasion de chute, mais bien au contraire, une occasion de nous approcher davantage du Seigneur. J'ai discuté avec une sœur récemment, qui était très éprouvée sur le plan de la santé tout au long de l'année dernière. Elle aurait pu, en effet, dire, mais Seigneur, pourtant j'étais vraiment fidèle à l'Église, très appréciée de l'Église, elle fait tout, je pense même une femme de prière. Elle aurait pu dire, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour de jour au lendemain me retrouver avec une telle épreuve, une telle maladie? Mais elle n'a pas fait ça. Bien au contraire. Elle était très reconnaissante pour le soutien du Seigneur, même si la situation était très difficile. Et elle me disait que cette année, au cours de cette année, elle s'est approchée du Seigneur d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait, malgré ses quelques décennies de vie chrétienne. Elle s'est rapprochée davantage du Seigneur. Voilà une attitude que nous pourrions imiter. Collectivement, il me semble que nous pouvons, en tant qu'Église, l'ensemble des églises d'une région, voire même d'un pays, se rassembler pour prier face à une crise qui frappe un pays. Nous devons savoir que nous sommes solidaires aussi bien des bonnes choses qui arrivent dans notre monde que des mauvaises qui frappent notre monde. Le prophète Jérémie demande aux Judéens en exil de rechercher la paix et la paix de la ville de Babylone, de prier pour elle, car leur bonheur, leur paix dépend de celui de cette ville. Donc nous ne pouvons pas rester insensibles face aux catastrophes qui frappent notre pays. Face à une situation difficile que traverse notre ville, notre pays, nous sommes encouragés à chercher la face du Seigneur, à prier, à demander le soutien du Seigneur pour que des bonnes décisions soient prises, pour que des bonnes personnes, y compris sur le plan politique, soient placées aux bons endroits pour trouver des bonnes solutions, en tout cas des issues heureuses et glorieuse. En plus de la prière, nous pouvons aussi bien sûr agir, apporter notre soutien concrètement, intervenir pour limiter les dégâts. Prenons l'exemple de la catastrophe survenue dans la centrale nucléaire de Fukushima après le séisme qui a frappé le Japon en mars dernier. Parmi les liquidateurs, ceux qui se reliaient dans la centrale nucléaire pour contenir les radiations, il y avait 7 membres de l'église baptiste de Fukushima. Une communauté, c'est la communauté chrétienne la plus proche de cette centrale. Il y avait 7 frères qui se sont portés volontaires, mais en tout cas qui ont participé à cette œuvre que faisaient les liquidateurs. Voilà donc un autre bel exemple que nous pouvons aussi suivre sur le plan collectif pour exprimer notre solidarité avec ce qui se passe dans le monde, tout en gardant notre lucidité et notre lecture de ces événements à la lumière de la parole de Dieu. Pour conclure, j'aimerais nous encourager à chercher le Seigneur en toutes circonstances, surtout lorsque les choses vont mal. Malgré la dureté des événements que nous pouvons rencontrer, soyons certains. Soyons certains que la main du Seigneur n'est pas devenue, comme le disait le prophète Isaïe, trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Souvent, poursuit le prophète dans Isaïe 59, ce sont vos fautes, ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui le cachent, qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Que nous encourager à nous tourner vers lui dans les bons comme dans les mauvais moments pour que nous restions à son écoute, tout particulièrement lorsque les choses vont mal. C'est là que nous avons besoin plus du Seigneur, de son soutien, de soutien et de l'aide aussi des frères et sœurs qui nous entourent. Donc lorsque tout va mal, c'est là qu'il faut venir à l'église, c'est là qu'il faut chercher les frères et sœurs, c'est là qu'il faut encore se lire et prier et lire la parole du Seigneur. Et non pas simplement lorsque tout va bien. Voilà, que le Seigneur donc nous aide, et que le Seigneur nous accompagne dans cette marche avec lui et dans notre écoute à sa parole, dans notre sensibilité aussi à son Esprit Saint. Amen.